conclusion de ses sciences. Cela semble une anomalie apparente, dont l'explication est que les doctrines détaillées d'une science ne sont généralement pas déduites de, ni ne dépendent pour leur preuve de, ce que l'on appelle ses principes premiers. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait aucune science plus précaire ou dont les conclusions seraient plus insuffisamment établies que l'algèbre, qui ne tire aucune de ses certitudes de ce qui est communément enseigné aux apprenants comme ses éléments, puisque ceux-ci, tels qu'établis par certains de ses enseignants les plus éminents, sont aussi pleins de fictions que la loi anglaise et de mystères que la théologie. Les vérités qui sont finalement acceptées comme les principes premiers d'une science sont vraiment les derniers résultats d'une analyse métaphysique pratiquée sur les notions élémentaires avec lesquelles la science est conversante. Et leur relation à la science n'est pas celle de fondation à un édifice, mais de racine à un arbre, qui peuvent remplir leur office tout aussi bien qu'elles ne soient jamais déterrées et exposées à la lumière. Mais bien que dans la science les vérités particulières précèdent la théorie générale, on pourrait s'attendre à ce que le contraire soit le cas avec un art pratique, tel que la morale ou la législation. Toute action est en vue d'une fin, et il semble naturel de supposer que les règles d'action doivent prendre tout leur caractère et leur couleur de la fin à laquelle elles sont subordonnées. Lorsque nous nous engageons dans une poursuite, une conception claire et précise de ce que nous poursuivons semblerait être la première chose dont nous avons besoin, au lieu de la dernière que nous devrions anticiper. Un critère du bien et du mal doit être le moyen, semble-t-il, de déterminer ce qui est bien ou mal, et non une conséquence de l'avoir déjà déterminé. La difficulté ne disparaît pas en ayant recours à la théorie populaire d'une faculté naturelle, d'un sens ou d'un instinct, nous informant du bien et du mal. En effet, outre le fait que l'existence d'un tel instinct moral est elle-même un sujet de controverse, ceux qui y croient et prétendent à une certaine philosophie ont dû abandonner l'idée qu'ils discernent ce qui est bien ou mal dans le cas particulier en question, tout comme nos autres sens perçoivent la vue ou le son réellement présents. Notre faculté morale, selon tous ces interprètes qui méritent le titre de penseur, nous fournit uniquement les principes généraux des jugements moraux. Elle est une branche de notre raison et non de notre faculté sensible. Elle doit être consultée pour les doctrines abstraites de la moralité et non pour la perception concrète de celle-ci. L'école de l'éthique intuitive, tout comme celle que l'on pourrait qualifier d'inductive, insiste sur la nécessité de lois générales. Elles s'accordent toutes deux sur le fait que la moralité d'une action individuelle n'est pas une question de perception directe, mais l'application d'une loi à un cas individuel. Elles reconnaissent également, dans une large mesure, les mêmes lois morales. Mais elles diffèrent quant à leur preuve et à la source d'où elles tirent leur autorité. Selon une opinion, les principes de la morale sont évidents a priori, ne nécessitant rien pour commander l'assentiment, sauf que le sens des termes soit compris. Selon l'autre doctrine, le bien et le mal, ainsi que la vérité et le faux, sont des questions d'observation et d'expérience. Mais les deux maintiennent également que la moralité doit être déduite de principes. Et l'école intuitive affirme aussi fermement que l'inductive qu'il existe une science de la morale. Pourtant, elle tente rarement de dresser une liste des principes a priori qui doivent servir de prémisse à la science. Elles font encore plus rarement un effort pour réduire ces divers principes à un premier principe unique ou à un fondement commun d'obligation. Elles supposent, soit les préceptes ordinaires de la morale comme ayant une autorité a priori, soit elles établissent comme fondement commun de ces maximes une généralité bien moins évidemment autoritaire que les maximes elles-mêmes et qui n'a jamais réussi à obtenir une acceptation populaire. Pourtant, pour soutenir leurs prétentions, il devrait y avoir soit un principe fondamental unique ou une loi à la racine de toute moralité, ou s'il y en a plusieurs, il devrait y avoir un ordre de préséance déterminé entre eux. Et le principe unique, ou la règle pour décider entre les divers principes lorsqu'ils sont en conflit, devrait être évident de soi. Pour examiner dans quelle mesure les effets néfastes de cette carence ont été atténués dans la pratique, ou dans quelle mesure les croyants